je vais passer la parole à notre conférencière après vous avoir rappelé le principe du fonctionnement. Linnea Lindstrom va, avant son exposé, nous faire découvrir la bibliographie sur le sujet de la permaculture. Elle est beaucoup en langue anglo-saxonne. Voilà. Mais ça va venir sûrement, avec le déploiement de la permaculture en France, des textes plus nombreux en littérature française. Donc c'est pour vous rappeler le fonctionnement, elle nous exposera donc sa bibliographie, elle fera son exposé, on aura un petit quart d'heure de pause café bar si vous voulez, et après débat. On essaiera de réduire la pause café pour essayer de rattraper un petit peu le retard que l'on a, suite aussi au petit exposé que je viens de vous faire. Voilà, et n'oubliez pas à la fin deux choses. La première, c'est, faut pas quand même que j'ai l'air trop vénal. La première, c'est la liste pour ceux qui veulent suivre les actualités des jeudis en question. Une liste, vous inscrivez votre nom, votre mail et vous recevrez les messages concernant les informations de chacun des jeudis. Et corrélativement à ça, si vous souhaitez faire partie du groupe actif qui prépare les jeudis, donc qui choisit le thème et qui organise après la venue du conférencier, vous pouvez venir le mercredi 2 février à 20h30 à la mairie de Marcillac. Nous nous retrouvons tous les mercredis de début de mois, ou du moins tous les mercredis qui suivent le dernier jeudi de chaque mois. On se retrouve donc... C'est ça, hein ? Je me suis pas trompé. Donc, on se retrouve pour les jeudis du mois, c'est un mensuel, donc il faut en avoir toujours 3-4 d'avance. Donc, on se retrouve pour peaufiner le suivant, mais aussi pour avancer dans les débats et dans la constitution des suivants. Et pour finir totalement vénalement maintenant, le petit chapeau par rapport à nos petits frais d'indemnisation de venue des conférenciers et d'affichage. Voilà, donc je laisse la parole à Linnea Lindstrom qui va nous parler de la permaculture.
Merci beaucoup.
Permacultrice. Oui, voilà. J'ai découvert le néologisme, mais c'est bon. Voilà.
C'est tout pour ne pas s'ouvrir, peut-être.
Oui, pour un rire.
Pour respirer éventuellement.
Ah oui, parce que là, je ne
sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui a envie de respirer. Donc, je m'appelle Linnea Lindstrom et je suis suédoise et j'ai vécu en France ces derniers 10 ans à peu près. J'ai découvert la permaculture. D'accord, merci. Donc, j'ai découvert la permaculture il y a à peu près 8 ans, ou peut-être un peu plus. Et j'ai travaillé en tant que bénévole dans des fermes pendant un moment et j'ai découvert ça vraiment très pratiquement, quoi, directement les mains dans la terre. Et il y a quelques années, là, je suis partie en Nouvelle-Zélande et là-bas, il y a beaucoup plus de structures autour. Donc, on peut facilement aller prendre des cours et être suivi. Donc là, je fais une formation de 2 ans, en fait. Et venir vous voir ce soir et de vous raconter un petit peu, ça fait partie de ma formation. Donc, je vous remercie totalement, je ne sais pas comment dire, d'être venu si nombreux. Je suis très touchée et je suis vraiment contente que ça vous intéresse tous, que vous avez envie d'entendre ce que je vais raconter. Ça me touche. Merci d'être venu. Voilà. Alors, la bibliographie de la permaculture est quasiment toute en anglais. Il y a deux jolies exceptions, qui est une petite introduction qui s'appelle « Graines de permaculture », que vous allez trouver chez Passerelle Éco. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magazine sur l'écologie pratique très sympathique. Donc, Passerelle Éco sur Internet, vous allez le trouver aussi. Et puis, il y a une version en français de ce gros pavé en deux parties qui s'appelle Permaculture 1 et Permaculture 2.
Plus édité.
Et donc là, Permaculture 1 et à nouveau édité, donc il y a une nouvelle édition. Donc on a fait une petite préface à plusieurs, avec aussi un annuaire avec tous les permaculteurs en France. Donc ça, c'est vraiment la chose à se procurer si on veut approfondir un petit peu. Et c'est aussi édité par Passerelle Éco. Non, c'est pas édité par Passerelle Éco, mais c'est distribué par eux.
Oui, bien sûr. Tous les gens qui auront l'occasion de fréquenter les événements, enfin les bourses d'échange de Biodiva, pourront se procurer le premier petit fascicule qui coûte 10 euros, non, c'est ça?
8 euros, c'est marqué derrière.
8 euros. Donc, l'association.
Tu fais pas de bénéfice dessus.
Comment?
Tu fais pas de bénéfice dessus.
Si, beaucoup. Je prends 40%. Non, on va les commander et puis donc on les vendra prix coûtant.
Super.
À tous les adhérents des bourses. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà l'idée de l'acheter, vous pouvez me le signaler. Comme ça me donnera une idée de la quantité à commander. Quoi.
Super.
Donc, ceux qui connaissent Biodiva, vous pouvez contacter Biodiva par le site.
Donc ensuite, donc ce que je viens d'en parler là, c'est, on va dire, un des quatre initiateurs de la permaculture. Donc là, il y a Bill Mollison et David Holmgren qui ont démarré. Patrick Whitefield, c'est un qui un peu suit leur branche ou leur découverte, qui sont basés en Australie. Après, en même temps, dans les années 70, il y avait Fukuoka, Masanobu Fukuoka, au Japon, qui a découvert à peu près la même chose. Et je vais vous raconter bientôt ce que c'est qu'ils ont découvert. Et en même temps, il y avait aussi Sepp Holzer en Autriche. Donc il y a trois différents endroits avec quatre différentes personnes qui ont découvert que, bon, c'est évident maintenant, mais à l'époque, c'était pas aussi évident que quand on regarde les écosystèmes sauvages, ils sont beaucoup plus riches en biomasse, ils sont beaucoup plus riches en diversité, ils sont vivants, le sol se construit d'une année à l'autre, il y a les taux d'humidité qui sont beaucoup plus stables dans l'année, il y a tout un tas de choses qui seraient très favorables pour l'agriculture. Et que l'agriculture conventionnelle des années 70, on voyait que ça marchait pas vraiment et qu'il y avait de plus en plus d'intrants pour chaque année qui passait, qu'il y avait de moins en moins de terres fertiles et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc, à ces trois différents endroits, ils ont regardé, observé, vraiment été présents à la nature autour d'eux pour voir, alors, qu'est-ce qui marche? Comment ça fonctionne, la nature? La nature, ça fait des millions d'années que la vie a essayé d'établir des manières de fonctionner qui seraient les plus efficaces possibles. Eh bien, si on s'est inspiré pour faire notre nourriture, nos bâtiments, notre chauffage, enfin, tout ce dont on a besoin, notre protection en tant qu'être humain, basé sur le fonctionnement du vivant, comment est-ce que ça marcherait? Alors, les réponses de Fukuoka au Japon ne sont pas exactement pareilles que les réponses de Mollison en Australie, ni de Sepp Holzer en Autriche. Parce que chacun s'est inspiré de l'environnement autour de lui et a appliqué ce qui correspondait à leur biotope et à leur climat. Donc, juste parce que Fukuoka a écrit un excellent livre qui s'appelle La Révolution en un brin de paille, que je vous recommande aussi vivement que les livres de Mollison et celui-là, et qui est disponible, je ne sais pas où on la trouve. Je sais qu'il est traduit, mais ouais, on le trouve pas plus facilement. Très Daniel, d'accord. Donc il parle beaucoup de la production de riz. On ne veut pas dire que si on produit du riz sur les méthodes de Fukuoka, c'est bon, on va sauver la planète, quoi. C'est un bon pas si on a un terrain qui correspond à la production de riz. Voilà. Donc, c'était une petite introduction, surtout avec. Enfin, viser un peu la bibliographie.
Juste un mot.
Oui.
Pour dire que ça bouge, un résumé de ça disponible en français depuis deux mois sur Internet. Celui-ci qui sort le mois prochain en français. Celui-ci qui vient de sortir en français aussi. Ouais. Celui-ci qui est prévu pour l'année prochaine.
Et celui-là
qui va bientôt être traduit aussi. Donc voilà, on sent que ça bouge dans le monde francophone.
Oui, c'est sûr. Donc là, il y a deux... Université Populaire, c'est aussi une association,
je crois, ouais.
Donc il y a deux associations qui sont présentes en France. C'est d'un côté Brin de Paille, qui est plus associatif dans l'entraide avec un forum sur Internet, tout ça. Et l'Université Populaire de Permaculture, qui s'occupe plus de la structure internationale des formations, etc. Alors, donc on peut se demander un peu ce qu'ils avaient en commun, ces messieurs Holmgren, Fukuoka et Holzer, et Mollison. Et ils ont tous vraiment eu l'esprit à observer la nature autour d'eux. Et ça, n'importe qui peut le faire. Si on est un peu d'un esprit curieux et qu'on est un peu patient et qu'on veut bien s'asseoir au bord de la rivière et bien regarder tout ce qui se passe autour de soi, qu'on est ancré dans la terre et qu'on vit à un endroit toute sa vie, on a plein de connaissances aussi à faire passer. Et ça, si c'est appliqué localement avec les méthodes de production, ça serait aussi de la permaculture, même si la personne elle-même n'est pas forcément au courant que c'est de la permaculture qu'elle fait. Donc ça, je pense, pour moi, c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, ben, ça fait un peu sectaire. Bon, il y a trois personnes qui ont découvert quelque chose de chouette et ils vont tous nous passer l'information. » C'est aussi quelque chose qui vient de notre humilité à vouloir imiter la nature et pas se dire que on sait tout, on a tout découvert, la science nous permet de dominer la nature et on s'en distancie de plus en plus. Donc moi, je vais surtout parler de ce que Holmgren et Mollison ont développé comme qui passe normalement plus pour la permaculture au niveau mondial, qui est un mouvement un peu plus cohérent peut-être, mais qui s'inspire et qui est très en lien avec les autres. Donc, ils partent d'un point de vue que le plus éthique, ou même la seule chose vraiment, la seule décision vraiment éthique qu'on peut faire dans la vie, c'est de prendre pleine responsabilité pour notre propre vie et la vie de nos enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ça veut dire reconnaître de quoi on est dépendant, de quoi on a besoin pour vivre et comment est-ce qu'on va se procurer ça en respectant les autres formes de vie. Donc, ça veut aussi dire, si moi je prends tout ce qu'il faut pour moi dans ma vie personnelle en marchant sur les autres ou sur les autres formes de vie, ben je ne laisse pas quelque chose de vraiment vivant aux générations futures. Donc, pour être vraiment responsable et prendre cette décision éthique de prendre soin de nous, c'est aussi de prendre soin de la Terre. Donc de prendre soin de l'humain donne prendre soin de toutes les formes de vie et de regarder ce qu'il faut pour qu'on puisse indéfiniment dans l'avenir produire une nourriture toujours plus saine, des habitats toujours plus agréables et plus vivants. Et donc de faire les choses pour que ça puisse non seulement durer, mais s'améliorer avec le temps. Donc dans cet esprit de soin de la terre, il y a aussi ce qu'on peut dire, on peut appeler ça les droits fondamentaux de toute forme de vie. Donc non seulement on va pas aller forcément à la protection des cafards, mais on va plutôt dire, chaque écosystème, dans toute sa diversité et avec toutes les connexions qu'il y a entre les êtres vivants là-dedans, il a le droit de persister. Il a le droit de devenir plus complexe, de continuer à vivre sa vie. Donc, le choix de vie qui vient avec tout ça, c'est de dire, on va essayer de restituer le plus d'espace sur la Terre possible aux écosystèmes naturels, sauvages, qui participent à régénérer la terre, à nous procurer l'eau pure, l'air qu'on respire, tout ce dont on a besoin comme base pour la vie. Et d'autre part, cultiver la terre dont on a besoin pour notre survie de la manière la plus intense et la plus efficace possible, en améliorant toujours la qualité de cette terre. Donc la fertilité et la vie du sol. Est-ce que vous me suivez ? C'est bien. J'avais peur à un instant. J'ai besoin de me rassurer des fois. Plus fort, vous avez du mal à entendre là-bas? D'accord, bon.
Joël, tu as un crayon, s'il te plaît.
Alors, je vais partir un peu sur les principes écologiques. Parce que tous ces hommes, bon, évidemment, ils ont observé la nature et ils ont voulu faire quelque chose de bien écologique. Alors, qu'est-ce que c'est les principes écologiques? Je veux bien que vous m'en dites quelque chose, s'il y a quelqu'un qui se sent. Les principes écologiques. Vous êtes plus timide que moi, donc j'y vais. Déjà, au niveau de la planète, la Terre en elle-même cycle tous les nutriments. Donc évidemment l'azote, le phosphate, le soufre, l'oxygène, le carbone, enfin tous ces cycles dont on connaît bien le fonctionnement dans la science de l'écologie. Mais aussi chaque petit écosystème, pour lui, il circule aussi tous ces nutriments à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient plus complexe avec le temps. Un écosystème qui n'est pas détruit par la foudre ou un tsunami ou un truc complètement dévastatrice devient avec le temps de plus en plus complexe. Et c'est en absorbant la lumière et l'énergie du soleil et en le captivant dans la masse, dans la biomasse de cet écosystème-là. Et ensuite, il est retransmis aux animaux et puis dans le cycle de décomposition et de vie et de mort simplement, que les nutriments sont recyclés tout le temps et restent sur place, relativement. Évidemment, il y a des échanges aussi. Donc ça, c'en est pour une chose, la circulation interne de tous les nutriments. On peut dire aussi que on fait tous partie d'un écosystème. On a un peu tendance à oublier ça quand on vit dans des bâtiments, on mange des choses qui sont achetées, qu'on n'a pas forcément produit, on est un peu déconnecté, mais on fait partie tous des écosystèmes. Et tout ce qui est vivant sur la planète en fait partie. Donc de prendre conscience de ça, et de se dire, moi aussi je fais partie d'une circulation de nutriments en fait. Et que la mort dont on a peur n'est pas forcément... justement ce cycle de décomposition et de renaissance qui existe partout dans la nature, mais c'est l'extinction. Quand une espèce disparaît à tout jamais, ça c'est quelque chose dont effectivement il faut avoir très peur, parce que c'est définitif. Tandis que nous, on meurt, on a des enfants ou des neveux, des nièces, notre sang quelque part qui continue à couler dans les veines des gens, on a nos cousins à l'autre bout de la planète avec qui on est liés aussi, et on continue à exister dans nos constituants, dans ces cycles de nutriments. Donc, il y a aussi dans les principes écologiques, dans les principes des systèmes écologiques, l'idée que l'extinction d'une espèce, c'est quelque chose à absolument prévenir. Parce que l'extinction d'une espèce, c'est quand il y a un déséquilibre au sein d'un écosystème. Et qu'il y a trop peu, ou qu'au contraire, ils sont trop nombreux dans une espèce, là, ça mène à un déséquilibre qui s'aggrave et l'espèce peut très bien devenir, peut disparaître. Et ça dépend de quelques facteurs clés qui sont assez limités. C'est genre la température ou les sources de nourriture. Il y a les conditions en général autour qui déterminent si une espèce va survivre ou pas. Donc, ça c'est une autre... c'est un peu difficile de les déterminer, ces principes écologiques, mais c'est un peu les conditions pour comprendre ce qui va suivre. Donc après, dans la nature, évidemment, chaque... membre d'un écosystème a aussi sa niche. Et plus il y a de diversité et de divers membres d'un système, plus chacun va être calé dans une niche très bien précise. Et les liens dans l'espace et dans le temps entre tous ces différents membres, et c'est ce qui va créer la stabilité de l'écosystème. Donc, je peux résumer ça en disant ce que j'ai écrit, que je suis contente des fois d'avoir des phrases. Donc, que la stabilité d'un écosystème dépend du nombre de connexions utiles entre les membres. Donc, c'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette pièce qu'on s'entend ou qu'on se comprend très bien. C'est parce que les gens se connaissent. Et c'est pareil dans un écosystème. Si les différents membres d'un écosystème communiquent en se passant le carbone, quand on a coupé, quand une plante est en train de se décomposer, ben il y a les champignons qui vont décomposer la lignine, qui vont ensuite le passer, vont créer des gels dans le sol qui va faire qu'il y a plus de rétention d'eau, donc il y a une autre partie qui peut pousser parce qu'il y a plus de rétention d'eau. Enfin, c'est les liens. Vous voyez la différence entre juste être nombreux ou d'avoir des liens forts. Ça va. Il y a quelques têtes qui s'endorment, alors je pense que je vais vous poser des questions. Parce que, bon. Alors, je vais vous demander à quoi vous pensez que ça pourrait servir? Dans quel domaine de la vie est-ce que ça peut servir, toutes ces choses?
À nous en goûter le jeudi soir.
À la vie elle-même.
Oui. Ce qui englobe finalement tout, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on fait, c'est les interactions entre les personnes, mais c'est aussi les productions agricoles, comme je pense beaucoup de gens qui sont venus ici ce soir, voient surtout la permaculture dans l'application de la production de nourriture. Et peut-être que vous êtes très déçus que je ne parle pas beaucoup de jardinage. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour ça, qui appliquent ça concrètement dans leur jardin, tout ça. Moi, je l'ai fait aussi et je trouve ça absolument indispensable. Parce que sans produire une nourriture saine sur une terre qui devient de plus en plus riche chaque année, eh ben, c'est sûr que là, la culture humaine, elle ne peut pas devenir permanente. Si on érode les sols et qu'on ne crée pas une production agricole qui puisse perdurer dans le temps, là, c'est fichu pour nous. Donc, évidemment, ça, c'en est. On peut aussi l'appliquer sur les bâtiments, sur la construction de bâtiments, parce que c'est aussi quelque chose de vivant, qui, sur une échelle plus longue de temps, va aussi se décomposer. On peut l'appliquer aussi sur l'économie, d'essayer de se dire, bon, ben, comment est-ce qu'on fait circuler les choses localement? Comment est-ce que toutes nos ressources à chacun, donc moi, j'aime bien parler, voilà, vous aimez bien cultiver des choses, quelqu'un d'autre aime bien... Bon, il y a tellement de différentes choses à faire, mais... à réparer des choses, des véhicules, d'autres ont des connaissances extrêmement pointues dans plein de différents domaines. Et comment est-ce qu'on peut garder ces compétences et cette richesse localement? En créant des liens. Les liens entre différents membres de ce système local, c'est ce qui va permettre de garder la richesse localement. Donc après, pour ça, évidemment, il y a plein de différents systèmes pratiques. Donc, il y a évidemment les sels qui sont bien connus en France, mais il y a aussi les systèmes, donc c'est les systèmes d'échange local, hein, les sels, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, il y a les monnaies locales qui sont échangeables contre des euros ou qui sont soutenues par une autre devise. Il y a les bons d'achat, il y a les groupements comme des AMAP où on achète en avance et on a ensuite la récolte. C'est juste une question de créer du lien en fait. Et c'est le lien qui, avec le temps et la confiance qui se construit, remplace en grosse partie la comptabilité. la comptabilité qui peut des fois vendre. Après, je pars un petit peu à côté là parce que c'est un peu mon sujet de prédilection dans la permaculture. Mais ça peut aussi être utilisé, enfin, ce regard de comment fonctionne le vivant et comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur nos situations diverses, sur dans l'éducation ou dans la gouvernance d'une commune ou d'un groupe de gens. Donc il y a beaucoup de différents domaines dans lesquels on peut appliquer la permaculture. Alors, je me demande vers quoi je vais digresser maintenant. Donc, vous dites certainement que là, ça a tout l'air bien beau comme ça, mais c'est très abstrait. C'est très abstrait. C'est sûr. Et pour vraiment comprendre comment appliquer ça sur ce que vous faites dans la vie. Parce que bon, là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord que ça pourrait être appliqué sur n'importe quoi.
Parce que pas... Ouais, avec ces sons plats, peut-être des relations sexuelles.
C'est mieux.
Tout de suite, quand j'ai pensé, ouais, on va appliquer les poissons vivants, appliquer les vidéos à la tour, bah, du coup, oui, de la pilule, oui, de l'avortement, et... Enfin, voilà, c'est...
Ah, c'est une super bonne question. Bon, moi je vois ça, enfin, personnellement, hein, je vois ça aussi comme...
Non, mais c'est juste... C'est
pardon, je ne vous ai pas entendu.
Le capillaire n'était pas le seul moyen pour faire ça dessus.
Voilà. Et que il y a aussi, enfin, donc, à mon sens, il y a beaucoup de travail qui a encore besoin d'être fait au niveau de notre rapport au corps et notre rapport à la sexualité. Donc après, bon, je ne veux pas trop
développer.
Si, oh là là, enfin. Non, mais je pense que... Alors.
Pas le sujet le plus facile quand on est
ça, j'ai des gens qu'on ne connaît pas. Mais pour moi, c'est aussi d'apprendre à connaître nos corps, qui est quelque chose qui est très problématique dans notre société, assez mécaniste, tout ça. Très souvent, on en sort en philosophie ou en attachement à la nature et tout ça, mais on n'a pas forcément un très bon contact avec nous-mêmes. Et en tant qu'être sexuel, reprendre contact avec qu'est-ce qu'est le plaisir et qu'est-ce qu'est la procréation, et comment est-ce que tout ça fonctionne pour moi, ça, c'est... ça peut certainement aussi être un travail permaculturel. Après, bon, je ne sais pas ce qu'on dit les autres.
Mais il faudra faire des stages, peut-être.
Je suis sûre que ça serait très vite vendu. Il y aurait plein de gens qui s'intéresseraient. Juste dire sexe permacole.
C'est peut-être un moyen pour populariser la permaculture.
Certainement, vulgariser dans ce cas-là.
Si je comprends bien.
Oh, là, c'était juste aussi par rapport à ce sujet. C'est vraiment que mon point de vue. Et ça n'a rien de voilà, général. Ah,
si je comprends bien, si on prend le couple comme un écosystème,
oui.
Plus les relations sexuelles se complexifient, plus elles s'enrichissent et plus le couple dure.
Bah, c'est une super résumé. Tout à fait. C'est excellent.
Il y a toujours des
plans bien mieux. Comment? Bah oui, voilà. Et son couple dure depuis longtemps. Pour en tirer la conclusion. Bon. Après, je pense que là, ça disgresse un petit peu. Bien sûr. Et ça peut être aussi une remise en question de la monogamie comme la seule voie, le seul mode d'expression, tout ça. Après, ça, c'est pas ce pourquoi je suis là ce soir et j'ai pas envie d'en parler.
Donc, comme c'est un peu une éthique qui se veut un peu globale, je veux dire, dans nos vies, il y a ça aussi. Et que c'est des points importants de nos vies.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je pense, c'est que c'est un peu comme aussi la spiritualité. La permaculture, quasiment tous les profs partout dans le monde disent c'est super important d'avoir un quelque chose de spirituel dans sa vie, si on veut. Voilà. Après, ce que c'est et comment vous le vivez et qu'est-ce que vous en faites, c'est votre affaire. Et c'est pas quelque chose qui est imposé de... c'est bien d'avoir une voie spirituelle, mais on peut très bien vivre sans. Et de mon point de vue, la sexualité, ça fait aussi partie de ce qui est très intime et très personnel, et que les gens vivent très différemment, quoi. Et justement, peut-être cette diversité, non seulement de voies spirituelles, de religions, de groupements, de toutes sortes, ou d'athéisme, et d'idéologies, et de... voilà. Mais aussi les différentes manières de vivre sa vie de couple, de famille, de sexualité, de relations. C'est plus il y a de diversité, peut-être qu'on explore encore plus ce que c'est d'être humain, dans plein de différentes manières. Et là après, c'est aussi juste mes petites réflexions philosophiques. Là, il ne faut pas me prendre au pied de la lettre. Plus une réflexion. Donc, ce que j'étais en train de commencer à dire, c'est que oui, c'est complexe, c'est abstrait, et comment on fait pour pouvoir appliquer ça dans nos vies? Moi, je dis, il faut faire le stage de 2 semaines. C'est le minimum nécessaire pour commencer à travailler avec d'autres gens, pour commencer à comprendre comment est-ce que moi, j'intègre ça dans la vie. Alors, après, il y a les livres. Bon, on apprend jusqu'à un certain point dans les livres, c'est sûr. Mais ça aide aussi pour commencer à se dire comment je peux appliquer ça. Ce qui est le plus important en fait dans ces cours de 2 semaines, enfin de 72 heures, c'est qu'on apprend comment, enfin on apprend vraiment des outils de design. Donc c'est pour ça qu'on parle de design ou de conception permaculturelle, parce que pour appliquer les principes écologiques sur d'autres systèmes, que ce soit une ferme ou une maison ou quoi, il faut avoir une méthode. Et cette méthodologie, elle ne s'explique pas en une demi-heure ou une heure. Donc, je ne vous en parle pas, parce que je trouve ça, ça serait de pas lui rendre justice. Mais c'est une méthode pour apprendre à observer les conditions locales. Donc, s'il s'agit d'un terrain, c'est l'aspect, le climat, les microclimats qui y sont... comment coule l'eau, qu'est-ce qui est déjà comme végétation, la qualité du sol, la composition, tous les différents aspects, la biodiversité qui est déjà sur un lieu, etc. Et apprendre à bien l'observer de manière à pouvoir en extrapoler comment est-ce que moi je peux rendre ce terrain, comment est-ce que je peux le transformer en un écosystème qui me nourrit. Que ça reste un écosystème avec toutes les différentes parties, donc des arbres, des animaux, des herbacées, des annuelles, des pérennes, un sol qui se refertilise par lui-même, tout en me fournissant de quoi me nourrir, avec le moins d'efforts possible pour le plus de rendement possible, et en circulant tous les nutriments sur place. Et ça, c'est des techniques, et c'est des méthodes, et ça ne s'apprend pas comme ça en une soirée. Je ne vais pas non plus vous enseigner une technique particulière parce que ça varie aussi avec les endroits. Donc, tout ce que vous avez entendu comme la culture sur but, c'est la permaculture, c'est peut-être vrai pour certains endroits. Ou la culture comme en parle Fukuoka avec... je ne sais plus comment ça s'appelle, les terrasses pour la circulation d'eau, bien réfléchie, avec la succession aussi entre des animaux et des plantes d'une certaine manière. Ce n'est pas ça la permaculture. Ça en fait partie des solutions qui, s'ils sont adaptés à votre lieu, si vous voyez que c'est ça qui va pouvoir coller avec les écosystèmes qui sont déjà sur place, avec les conditions climatiques, les conditions du sol, tout ce qui est déjà là, là, ça peut être une solution permaculturelle. Vous me suivez ?
Tout à fait.
Voilà. Je crois que la permaculture, c'est exactement l'opposé d'un copier-coller. C'est d'apprendre à vraiment observer, à vraiment pénétrer dans comment fonctionne le vivant dans ce lieu. et comment est-ce que moi je fonctionne avec ce lieu.
C'est aussi d'intervenir le moins possible en tant qu'humain, non ? Le moins possible d'intervention, non ? Laisser la nature, non ? Le plus possible, c'est ce que je croyais avoir compris.
Il y a de ça, mais pour pas mal d'endroits, c'est bon aussi de restituer une bonne partie de nos terres. Par exemple, disons qu'on a une grosse ferme de 100 hectares. Super. Mais tu te rends compte que dans ta famille, tu n'as besoin que de 10 hectares pour te nourrir finalement. Et bien, qu'est-ce que tu fais avec le reste ? Ben, tu essayes de le restituer à un écosystème naturel et te contenter avec le moins possible sur 10 hectares. Tu pourrais nourrir 5 familles. Et bien, tu installes d'autres familles. Et on travaille ensemble pour améliorer le rendement de cet endroit-là. C'est... Bon, après, il y a ce qu'on appelle en permaculture les structures invisibles, qui est tout l'administration, les lois, l'organisation d'associations. On appelle ça des structures invisibles. C'est des choses qui sont aussi des systèmes vivants avec lesquels il faut interagir, qu'on le veuille ou non. Mais que si on les approche avec ce regard, bon, comment est-ce, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je voudrais qui existe à la place, comment est-ce que je peux interagir avec ça d'une manière vivante et évolutive, ben, ça peut nous permettre d'avancer mieux que quand justement on se dit « Oh là là, c'est impossible. » Là, ils mettent ces lois-là, on ne peut plus rien faire. Bon, comment est-ce qu'on peut s'organiser autrement ? Comment est-ce qu'on... Après, donc, ça aussi, ça s'applique différemment dans chaque pays. Donc, voilà. Je n'ai pas la solution finale qui va pouvoir vous dire « Ah, ben d'accord, on va faire comme ça et on va sauver la planète. » Super. Et j'ai juste ça à vous dire que, bon, en apprenant à bien observer ce qui est vraiment autour de vous et rentrer en contact avec le vivant, là, il y a moyen d'améliorer les choses localement. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop décourageant. Je crois que je vais me contenter là. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je vais continuer encore pendant un moment, mais je préfère avoir plus de temps pour les questions. Parce que je pense que vous en avez plein.
Il y a plein de questions. Donc, elle nous invite au débat. Après la petite pause, vous pouvez commencer à papoter entre vous. Et puis après, on relancera le débat avec Linia, la petite pause café.